Chers amis fous du volant, bonjour, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignot, on va revenir sur l'actualité de la F1. Salut Stéphane, en forme ?
En forme comme d'habitude et toi Gilles ?
Impeccable. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Au sommaire du jour, Stéphane, je te propose bingo à Monaco pour Max Verstappen, vainqueur en principauté, leader au classement des pilotes pour la première fois de sa carrière, et Red Bull qui passe aussi en tête au classement des constructeurs. Mais où est passée la bonne étoile de Mercedes? Hamilton transparent et agacé, Bottas piégé dans les stands, la firme à l'étoile a subi une véritable éclipse à Monaco. Et puis on reviendra sur l'ascenseur émotionnel chez Ferrari, la pole pour Charles Leclerc, la sortie de piste dans la foulée, la casse d'un élément de transmission et le retrait du Monégasque avant de finir avec la deuxième place décrochée par Carlos Sainz à l'arrivée. Voilà donc un programme chargé pour cette nouvelle édition du Fou du Volant, post-Grand Prix de Monaco.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stéphane, on débute avec Red Bull et Max Verstappen, bingo à Monaco, je disais dans le sommaire. Dimanche, c'était même la journée Max Verstappen, top, le jeu de mots pourri un peu, bon je te l'accorde. Ok, victoire du Néerlandais qui avait finalement la voie libre suite au retrait de Charles Leclerc. Et puis avec les ennuis de Bottas, il avait finalement une voie princière pour foncer vers son premier succès à Monaco. Cerise sur le rocher, la première place du championnat. Et puis la quatrième position aussi hein, de Pérez qui permet à Red Bull de passer devant Mercedes au classement des constructeurs. On a le sentiment finalement que tout s'est dégagé devant Red Bull. Pourtant jeudi, ça semblait quand même très très mal parti hein, pour Max Verstappen et Sergio Pérez. Qui était bien ennuyé après les essais libres.
Oui, Gilles, je dirais que Verstappen a gagné façon Hamilton et Mercedes après un rétablissement spectaculaire techniquement. Jeudi, on l'a souvent entendu à la radio, essais libres 1 et essais libres 2, se plaindre d'un manque de température dans les pneus avant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire du sous-virage à Monaco, on n'arrive pas à tourner, et ça, c'est quand même compliqué sur ce circuit spécialement. Et puis, il se plaignait aussi de ne pas pouvoir maîtriser la température de ses pneus arrière qui surchauffaient, donc qui créaient des glissades, des dérives du train arrière. Donc là, c'était le double problème, il passait d'un problème à un autre. Il a eu quelques moments chauds, et deux jours plus tard, changement complet de situation, peut-être que cette journée off du vendredi exceptionnel à Monaco l'a aussi aidé. En tous les cas, il avait un bon setup et de là, son week-end a bien commencé, il s'est bien terminé aussi. Et les rôles se sont un petit peu inversés finalement par rapport à Mercedes qui se sentait bien avec les setups des voitures le jeudi. Donc vraiment une démonstration de maîtrise technique d'abord, je dirais, de Verstappen et en plus ensuite une belle partie de pilotage.
Alors c'est vrai qu'il y a souvent hein, des retournements de situation comme ça tout au long du week-end à Monaco. D'abord parce qu'on roule le jeudi en essai libre au lieu du vendredi, donc ça laisse une journée pleine. Il ne faut pas croire que les ingénieurs des équipes de Formule 1 ils vont se balader dans le port de Monaco le vendredi. Ils font tourner les ordinateurs et les simulateurs à plein régime pour essayer de comprendre. Et ça, c'est une journée qu'ils n'ont pas, c'est 24 heures dont ils ne disposent pas habituellement sur les autres week-ends de Grand Prix. Donc ça laisse la possibilité de corriger le tir en cas de mauvaise direction dans les réglages d'une voiture. Et puis il y a aussi le fait que le circuit évolue beaucoup. Hein. C'est un circuit urbain, donc forcément, on démarre le jeudi, il n'y a pas de gomme sur la piste. Et puis au fur et à mesure, la piste évolue et ça peut parfois régler les problèmes de certaines équipes. et éventuellement en créer d'ailleurs d'autres chez certaines autres. Alors, on a dit que Max Verstappen se retrouvait pour la première fois en tête au classement des pilotes. Ça, c'est quand même déjà assez étonnant parce que ça fait quand même quelques saisons maintenant qu'il joue parmi les premiers rôles. Mais alors, une statistique quand même assez incroyable, Stéphane, on a retrouvé en préparant cette émission la dernière fois que Red Bull a été en tête au classement des constructeurs. Ça remonte loin, loin, loin. Je fais durer un peu le temps pour que ceux qui écoutent les fous du volant essayent de se remémorer. Oui, oui, fin 2013. Et oui, évidemment, la dernière couronne de Sébastien Vettel qui s'accompagnait du titre des constructeurs pour l'équipe de Christian Horner. Ça fait donc 163 Grands Prix, 2737 jours depuis la dernière fois que Red Bull n'a pas dominé le classement des constructeurs. Bon, c'est dire, hein, finalement, la longévité de... Alors ensuite, c'est Ferrari et Mercedes qui se sont partagés cette première place au classement des constructeurs. Mais ça fait du bien quand même d'avoir une nouvelle tête. Bon, Verstappen, finalement, il a contrôlé au départ, débarrassé donc de Charles Leclerc. On y reviendra un petit peu plus tard dans notre podcast. Ensuite, il a contrôlé Bottas au départ et après, il a fait sa course... J'ai envie de dire presque tranquillement, en fait, sereinement, en tout cas.
Alors oui, Gilles, son patron, Christian Horner, a parlé d'une masterclass. C'est vrai, il était parti quatre fois de la pole position jusqu'à présent. Il avait viré en tête invariablement au premier tournant. Là, il était en pole position virtuelle, on va dire. Il n'a pas raté le coche et il avait positionné sa voiture un petit peu de biais, comme un vieux briscard. On voit ça de temps en temps, vraiment. Et il fallait le faire à Monaco, même s'il n'y a que 260 mètres jusqu'au premier freinage. Et là, il a barré la route de Bottas, il a déroulé. Alors, finalement, tout ça, c'était un petit peu les... On a vu que les planètes étaient alignées pour Verstappen. Et je dirais qu'il avait fait un travail sur lui-même d'abord et qu'il avait tiré les enseignements de tout ce qui lui était arrivé à Monaco. Un accident en 2015 en course derrière Romain Grosjean. Il avait escaladé une partie de la Lotus juste avant le premier virage. En 2016, deux erreurs en essai libre 3 à Massenet, il tape le rail. En qualif, il casse une suspension façon Charles Leclerc, OS de la piscine. Et en 2018, il refait la même chose. Et là, il s'était pris une soufflante absolument monumentale.
Celle-là, elle était mémorable.
Et la voiture, c'était une voiture gagnante puisque Ricciardo était parti de la pole pour gagner. Donc, il avait vraiment raté une opportunité extraordinaire. Là, celle-là, cette année, il ne l'a pas raté. Il a contrôlé, il a dit tout le Grand Prix. Tous les voyants étaient au vert dans sa voiture, et spécialement en termes aussi de gestion des pneumatiques. C'est là-dessus qu'il a fait la différence. Bottas n'était pas en mesure de le challenger très longtemps.
Alors, tu emploies le mot masterclass. Moi, je dirais plutôt que c'est l'équipe Red Bull qui a fait une masterclass, parce que Verstappen, finalement, a simplement évité de commettre une erreur. Alors, je sais que c'est très, très compliqué à Monaco, mais Red Bull a réussi à faire conserver la première place à Verstappen et dans le même temps à réussir quand même une manœuvre assez rare en Formule 1. On parle souvent d'undercut, donc quand on fait arrêter plus tôt un pilote. Là, cette fois, Red Bull a inversé un petit peu ses plans et a donc choisi l'overcut pour Sergio Pérez, et ça l'y a fait passer donc Pierre Gasly, ça l'y a fait passer également Lewis Hamilton. Sergio Pérez partait 9e sur la grille de départ. Alors évidemment, avec le retrait de Charles Leclerc, ça le mettait automatiquement 8e, mais il termine quand même 4e à l'arrivée, au pied du podium, et ça permet à Red Bull de pointer en tête au classement des constructeurs. La masterclass, elle est pour Christian Horner et ses hommes.
Oui, et alors, je crois même que Pérez a passé Vettel, normalement, à l'occasion de cet overcut. Oui. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'enfin, Pérez joue un rôle pour Verstappen, puisque... en passant Hamilton, il lui prend 2 points au championnat. C'est quand même pas rien. Depuis le début de la saison, Bottas n'a pris aucun point à Verstappen. Là, Pérez prend 2 points, il prive Hamilton de 2 points, finalement. C'est quelque chose qui comptera peut-être à l'issue du championnat, à l'heure des bilans. Mais Pérez, il a fait le job à ce niveau-là. Sa 4e place, elle est intéressante en termes de points, mais surtout, il rend service à Verstappen, et c'est ça qu'a apprécié aussi Red Bull.
Et il y a un effet, un effet psychologique aussi dans cette équipe Red Bull qui, d'un seul coup, retrouve un statut qu'elle n'avait plus connu, on le disait, depuis quasiment 8 ans. C'est un ressort qui peut emmener très très loin cette équipe et qui peut vraiment faire vaciller la hiérarchie établie depuis quelques saisons en Formule 1.
Oui, et Red Bull se bat sur la piste. Maintenant, on savait qu'ils avaient une voiture qui était prête pour ça. Alors attention, Verstappen a été très prudent. Il a dit peut-être que ce résultat, le résultat à Monaco spécialement, peut livrer une image déformée de la hiérarchie. Et ils ont dit, on s'attend à un retour en force de Mercedes à Bakou. On verra bien. Mais Verstappen est aussi prêt sur le plan psychologique, sur le plan de la guerre, du combat mental, le jeu des petites phrases. Il avait été piqué au vif à la veille des premiers essais par un propos de Lewis Hamilton qui avait dit bah, finalement, Verstappen, il a peut-être beaucoup à prouver, en voulant dire c'est le challenger, il n'a jamais été en tête du championnat, je suis le pilote de référence, cette fois champion du monde. Et la première chose que Verstappen a dit quand il est sorti de sa voiture, c'est ben, les actions sont plus fortes que les mots. Et ça, c'est un message qu'il envoyait directement à Lewis Hamilton en voulant dire, moi, je suis prêt à me battre sur la piste et je ne vais pas être impressionné par la pression que tu voudras me mettre dans les médias.
C'est le début du mind game là, entre les deux grands artisans de cette saison 2021. Alors reste quand même quelque chose à éclaircir pour Red Bull, hein. C'est le spectre de la correction concernant le règlement sur la flexibilité des éléments aérodynamique qui pourrait ralentir un petit peu les deux autos de Max Verstappen et de Sergio Pérez. Alors, on va expliquer rapidement. Red Bull a la possibilité, en tout cas a développé un aileron arrière notamment qui se déforme un peu plus que la normale et certains disent un peu plus que la règle. Sauf que quand on la passe au contrôle en mettant les poids sur les ailerons, bah, ça marche. Donc, ça, en gros, ça veut dire qu'il y a des ingénieurs qui ont travaillé pour trouver une solution pour que ça passe au contrôle, mais que ça se plie quand même en course. Je ne suis pas sûr qu'il ait utilisé à Monaco parce que les vitesses ne sont pas suffisamment élevées pour qu'il y ait un rendement. Mais évidemment, ça agace foncièrement Mercedes et aussi du côté de chez McLaren, qui normalement, il y a un nouveau processus de contrôle qui doit être mis en place après Bakou. Mais chez Toto Wolff, on dit qu'il faut absolument faire en sorte que les contrôles soient faits dès la prochaine étape, hein, en Azerbaïdjan. Je ne sais pas ce que tu en penses de cette situation. Donne-moi ton sentiment et je te dirai après moi ce que j'en pense.
On pensait que cette affaire était réglée parce que les ailerons flexibles, on va dire, en fait, qui se penchent avec l'effet de la force de l'appui de l'air à haute vitesse, qui se penchent vers l'arrière et donc opposent moins de résistance à l'air, permet des vitesses de passage plus grandes. Ça remonte au début des années 2000. Il y avait déjà eu ce problème-là, Ferrari, Barre, etc. Les images qu'on voyait étaient déjà assez spectaculaires et la FIA avait dit, oui, effectivement, on s'est fait un petit peu prendre à contre-pied par des techniciens qui étaient capables de fabriquer un mât d'aileron qui est flexible, en fait, qui se déformait progressivement au fur et à mesure que la voiture gagnait de la vitesse. Et quand on rentrait au stand, la FIA faisait ses tests en statique
Et il était
et l'aileron
parfaitement
restait bien droit.
droit.
C'est fabuleux, hein. Et on pensait avoir réglé ce problème-là parce que la FIA avait dit dans ces années-là que elle allait renforcer les tests. On pensait que tout ça s'était réglé et on y retourne,
Ben oui,
tout
mais.
simplement. Donc, avec des matériaux un petit peu plus gérés de façon un peu plus intelligente, je dirais que Adrian Newey est parvenu à reproduire ces effets-là qu'on pensait oublier. Alors, ça se voit toujours à la télévision, hein, sur les caméras fixées sur l'aileron, aux essais ou en course. Et comme tout le monde n'est pas prêt à revenir, je dirais, et à refabriquer des ailerons, je dirais, normaux, la FIA, qui aussi n'a pas la possibilité de mettre en place les tests tout de suite, a dit, eh bien, on en viendra aux anciens ailerons, enfin, à des normes plus strictes au 15 juin, avec une tolérance d'un mois encore de 20% sur les déformations pour imposer à tout le monde à la mi-juillet des ailerons qui ne se déforment plus ou très peu. Bon. Donc, en tous les cas, ce qui est quand même très intéressant pour Red Bull, c'est que s'ils ont cet aileron qui fonctionne bien, à Bakou, ça risque de faire mal parce que la vitesse de pointe, elle approche les 380 km/h dans la très 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 longue ligne droite et ça va faire mal.
C'est la sempiternelle histoire du règlement technique de la Formule 1, où il faut bien comprendre que chaque équipe de Formule 1, et surtout les grosses équipes, paye très cher des très très bons ingénieurs qui prennent le règlement technique de la Formule 1 et qui le regardent, qui le lisent un petit peu à l'inverse de ce que le lambda, toi et moi, Stéphane, nous lisons. Eux, ils lisent ce qu'ils peuvent faire. Alors que le règlement, il dit ce qui est interdit. Donc forcément, à un moment, ils trouvent une ouverture, les fameuses zones grises, et ils s'y embouchent parce qu'ils ont du talent et qu'ils sont payés pour ça. Ça, c'est le côté technique. Moi, je trouve quand même que on a beaucoup laissé venir du côté de chez Red Bull sur ce sujet, et je me demande si, en fait, ils n'ont pas autre chose et qu'en fait, ils laissent tout le monde s'exciter de ce côté-là. Oui, oui, l'aileron, oui, il est super. Vous avez vu, on a un aileron, on a un avantage. Et je me demande s'ils n'ont pas une autre botte secrète quelque part ailleurs. Parce que je les trouve très, très zen dans toute cette histoire. On voit Toto Wolff qui s'énerve. Et Christian Horner, Helmut Marko, silence radio, les amis, nous voilà. Donc je te dis, pour moi, il y a autre chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a, il y a une autre botte secrète dans la Red Bull.
Je te rappellerai une phrase de Gordon Murray, l'un des plus grands génie de la technique passé chez, par Brabham, par McLaren, qui disait le travail du directeur technique, c'est d'interpréter, de contourner et de ridiculiser le règlement. On est en plein dedans. C'est lui qui avait fait la Brabham Inspirator, plein de choses différentes. Et Brown, qui est aujourd'hui le directeur sportif de toute la F1, connaît aussi très, très bien ça. C'est lui qui avait fait le double diffuseur en 2009. Il a dit que tout le monde avait les yeux rivés. C'était la grosse polémique, le double diffuseur de la Brown.
Il
disait, pendant ce temps-là, il y avait plein d'autres petits détails sur la voiture que les gens ne regardaient pas. Bon, eh bien, Red Bull est en train de jouer un petit peu à ce jeu-là. Et plus il y a de polémiques, finalement, plus ça fait leur affaire. Tu as tout à fait raison, Gilles.
Donc on verra ce que ça va donner. Déjà, est-ce que ça sera en action encore à Bakou ? Et je suis absolument certain, et je pense que tu es d'accord avec moi Stéphane, première séance d'essai libre, tout le monde va aller se loguer sur les caméras embarquées des Red Bull pour voir si l'aileron se déforme ou pas. On regardera aussi un peu celui d'Alpine, qui a l'air un petit peu souple aussi. Il y a quelques équipes comme ça qui jouent un peu. Bah évidemment, tout le monde regarde celui de Red Bull. On va regarder ça de près, mais ça va tellement vite, elle est tellement longue, cette ligne droite à Bakou, que là, s'ils ont le droit de l'utiliser là-bas, et normalement, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de raison légale de les en empêcher d'ici là, il va y avoir un vrai avantage. On va passer à notre deuxième sujet, parce que, évidemment, si Red Bull a magnifiquement négocié cette journée de dimanche dans les rues de Monaco, Mercedes a vécu une véritable éclipse monégasque. Mercedes qui perd la première place au classement des constructeurs pour la première fois depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 2018. Ça fait 1050 jours au firmament du classement des constructeurs pour la firme à l'étoile. Et qui perd au passage aussi la première place au classement des pilotes. Il n'y avait même pas de pilote Mercedes sur le podium hein, à Monaco. C'était arrivé seulement à deux reprises l'an passé. Donc il y a vraiment eu là un moment difficile pour les hommes de Toto Wolff. Et alors, on a tout de suite parlé d'un manque de performance de la Mercedes dans les rues de Monaco. Ben oui, sauf que moi, il me semble que Valtteri Bottas, il fait quand même troisième des qualifications à 250 millièmes de Charles Leclerc. Donc, elle ne devait pas si mal marcher, cette Mercedes. C'est peut-être Lewis Hamilton qui était un petit peu à côté ce week-end, non ?
À côté sur la piste et en termes de com aussi, on l'a vu assez vindicatif. Après la course, il a fait un passage express en zone mixte, il a juste fait le job et il est parti. Et il a mis en cause, comme rarement, bon, avec des mots feutrés forcément, Mercedes, mais il a dit c'est un week-end médiocre, c'est une très très mauvaise performance
de
l'équipe.
Ouais, pas si feutré que ça.
Oui, alors... Là, on a été étonné de ses propos et on a attendu le communiqué de presse et le rétropédalage de Mercedes où tout était rentré dans l'ordre. L'une des premières phrases d'Hamilton, c'était « on gagne, on perd ensemble ». Voilà, donc retour à la normale, blablabla, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, en tous les cas, il n'a pas du tout apprécié, mais effectivement, Bottas, il est troisième sur la grille. S'il avait fait le job de Bottas, il aurait été même deuxième avec le retrait de Leclerc et il aurait terminé deuxième de la course et il aurait été en mode limitation des dégâts, tout simplement. Ouais. Et il serait sorti de cette épreuve en ayant le sentiment d'être un petit peu passé à côté techniquement, mais il aurait gardé les rênes du championnat. Et puis après, retour à la normale à Bakou, c'est pas du tout ce qui s'est passé.
Ce qui est étonnant, c'est cette volte-face où jeudi, on voit bien qu'il est un petit peu dans la difficulté et il a un message très positif en disant « si je peux aider Valtteri à faire quoi que ce soit, je l'aiderai ». Donc quelque part, dans l'esprit collectif, dans l'esprit d'équipe, il est là. Et puis dimanche, alors c'est vraiment le Lewis Hamilton un petit peu... voilà, mais j'allais dire méchant, c'est pas ça, mais tu vois qu'il...
Non, il était grognon,
voilà, grognon
à la radio.
Je cherchais le mot. Ouais. Grognon, quand il comprend que malgré le fait qu'on l'ait fait arrêter plus tôt, bah, que Pierre Gasly ressort devant lui, il a fait toute la course derrière Pierre Gasly, quand il comprend que Perez va passer, que Vettel est passé, là il commence vraiment à s'exciter dans le micro, en s'en prenant carrément au stratégiste. Bon, c'est étonnant de voir cette évolution très rapide et très négative.
Bah, il est de mauvaise foi. Là, en plus, il dit l'undercut m'a fait perdre 3 positions. Enfin, c'est hallucinant. Je me suis dit, il parle de quoi, là? Parce qu'il considérait, en fait, qu'avec cet undercut, il devait passer Gasly. Déjà, pour lui, c'était une affaire qui était réglée dans sa tête. Toto Wolff a dit on avait surestimé peut-être l'effet de l'undercut et ça ne l'a pas fait, ça a manqué. Bon. Et derrière, le problème, c'est que Perez et Vettel aussi lui font l'overcut en restant plus longtemps en piste. Donc, il perd des positions par rapport à ça. C'est vrai que c'est un problème. Il était un petit peu coincé, je dirais. Il n'avait pas d'autre solution. Il était prisonnier. Hamilton était prisonnier à Monaco. Il s'en est pas sorti. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans le passé. Maintenant, ce qu'il dit, c'est j'ai perdu la première place au championnat. On va voir. Il reste 18 courses. Il l'a reconnu quand même globalement. Le samedi, il a dit Valtteri a mieux fait chauffer les pneus que moi, tout simplement, et il a fait un meilleur job. Et il a dit le problème ici, c'est que Monaco, c'est un circuit particulier. Il n'y a pas assez de freinage pour mettre de l'énergie dans les pneus, c'est-à-dire de la température. Et si on est sur un problème comme ça, on s'en sort pas. C'est no way, on n'y arrive pas. Mais quand même, Bottas a fait un meilleur job. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Alors, Hamilton est à 4 points au championnat.
Oui, c'est ça, c'est pas catastrophique non plus. Hein. Il a 4 points, voilà, il reste 18 courses. Il ne faut pas s'énerver non plus.
Tout à fait. Et il a l'habitude, en fait, aussi d'avoir un concurrent dans la lutte pour le titre. Il a eu 7 titres de champion du monde. Et à une reprise, simplement en 2015, il a fait toute la saison en tête du championnat. Et parfois, à d'autres occasions, il a eu à lutter beaucoup plus longtemps en étant dans la position du chasseur pour finalement être champion du monde. Donc, c'est peut-être même quelque chose qui lui plaît. La pression va redescendre un petit peu. On sait que ça va jouer à très, très peu. Je pense que la lutte ira jusqu'au bout, ira jusqu'au dernier Grand Prix de la saison.
Ah, c'est ce qu'il faut nous souhaiter, hein. Évidemment, c'est que ça se joue dans le dernier tour du dernier Grand Prix. Les chiffres que tu avais repérés, donc Hamilton, il avait été dominé au championnat avant de remporter le titre. Hein. En 2008, il y avait eu 3 leaders autres que Lewis Hamilton, Raikkonen, Kubica, Massa. 2014, Rosberg avait fait l'essentiel de la saison en tête avant finalement de baisser pavillon. 2015, tu l'as dit, Hamilton a fait toute la saison en tête. 2017, Vettel a quand même mené assez largement le championnat. 2018, encore, jusqu'à ce fameux Grand Prix d'Allemagne où Vettel sort de la piste et Hamilton, parti 14e, finalement récupère la première place du championnat et ne le perdra plus. 2019, Bottas. 2020 aussi, Bottas. Bon, cette année, c'est Verstappen. Voilà, il y a 4 points, il n'y a rien de grave. Mais c'est marrant, on a le sentiment... Enfin, c'est assez... Je trouve que on surréagit un petit peu là du côté de Lewis Hamilton parce que alors il y a la réaction vraiment épidermique du septuple champion du monde et puis en parallèle il y a Bottas qui dit tranquillement mais moi de toute façon maintenant je vais donner la priorité à mon intérêt personnel plutôt qu'à celui de l'équipe. Toto Wolff, finalement, on ne l'a pas vu taper du poing sur la table. Alors on ne sait pas ce qui se passe après dans les motorooms, mais c'est étonnant, là, cette ambiance d'un seul coup en quelques jours, et j'ai même presque envie de dire en quelques heures dans cette équipe Mercedes. On a le sentiment qu'il y a un truc qui n'est pas passé, et puis on a envie de dire à Toto Wolff, tiens tes gars, hold the line, Toto. Référence musicale aussi, jeu de mots pourri, mais ça y est, j'ai décidé aujourd'hui de me lâcher. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là, les gars? Ça y est, vous venez de perdre la première place au classement des pilotes, 4 points, c'est pas grave. Je regarde le classement des constructeurs, je le fais en direct, 1 point derrière Red Bull. ça va les gars, vous énervez pas, il y a 18 Grands Prix encore. T'as pas l'impression qu'il y a une surréaction là ?
Oui, alors Gilles, il va se passer peut-être ce qui s'est passé il y a 4 ans chez Mercedes, où ils étaient passés aussi à côté du sujet à Monaco. Hamilton était 14e sur la grille, je crois, éliminé en Q2 quand même, hein, tu te rends compte Gilles ? Et 7e en course. Et on avait parlé là, en fait, on avait remis sur le tapis cette histoire d'empattement long de la Mercedes. Pour expliquer concrètement, à Monaco, on tourne plus facilement, pour schématiser, avec une petite berline qu'avec un autocar. Forcément, il est plus long. Et la Mercedes, c'est la voiture la plus longue du plateau. Alors, ça avait peut-être joué. La question s'était posée et Mercedes avait fait tourner pendant 10 jours, 24-24, 24 heures sur 24, ses ordinateurs pour savoir ce qu'il en avait été. Il en était ressorti plusieurs choses. Un, que l'empattement n'était pas en cause. C'est pas du tout ce qui avait précipité Mercedes dans les abîmes de la contre-performance. Ça avait joué, mais un tout petit peu. C'était vraiment marginal. Et puis, Mercedes avait dit, surtout pendant ces 10 jours, on en a appris sur cette voiture beaucoup plus que sur le reste de la saison, et ça nous a servi pour remettre d'aplomb cette voiture qui était considérée comme une diva, qui avait des réactions erratiques, irrégulières d'un circuit sur l'autre. Et je pense que ça va être la même chose. Et en termes aussi alors d'entente dans l'équipe, c'est après la qualif que Hamilton avait dit, moi je suis 7e sur la grille, je suis prêt à filer un coup de main à Bottas en course. Alors ça, c'était assez étonnant, et effectivement Bottas avait dit, moi je joue ma carte perso. Donc Toto Wolff, je pense qu'il a du travail par rapport à ça, et surtout par rapport à ce qui s'est passé, l'abandon cataclysmique de Bottas au pit stop.
C'est ça, s'il y en a un qui devrait être amer, c'est quand même Valtteri Bottas, hein, qui avait une deuxième place quasiment garantie, qui avait la possibilité éventuellement de mettre Max Verstappen sous pression, et cet écrou qui n'a jamais voulu se desserrer, l'écrou de la roue avant droite, et qui a poussé le Finlandais à l'abandon. Et là, pas un mot, alors que c'est lui qui légitimement pourrait dire que c'est scandaleux, que c'est dommage, que l'équipe l'a trahi, enfin voilà, des choses dures. Non, il est resté finalement assez soft. On en a déjà parlé, hein, de ce rapport de force aussi dans la voie des stands entre Red Bull et Mercedes. Clairement, c'est un terrain où les hommes de Toto Wolff vont devoir progresser.
Oui, alors Toto Wolff a dit, c'est clair qu'il faut revoir plusieurs choses sur les pit-stops, et ça ne dépend pas que d'un seul homme, c'est une somme de petits détails ou de petites erreurs qui ont fait qu'ils n'ont pas pu décrocher cet écrou. Bottas a été très sympa quand même sur le coup de la déception, en disant, si c'est une erreur humaine, il faut soutenir le gars qui l'a faite. Parce que peut-être a-t-il mal engagé le pistolet pour dévisser cet écrou. Alors Bottas, il est un peu chat noir, hein, ça lui était déjà arrivé sur le premier Grand Prix de la saison à Sakhir. Ils avaient fait un arrêt de plus de 10 secondes pour changer ses 4 roues, une roue récalcitrante, et puis ils avaient surtout reposé la voiture alors que les 4 roues n'étaient pas changées. Donc le couac total. Et là, en fait, apparemment, c'est une malfaçon d'un mécanicien. Mais Toto Wolff a dit, la personne qui était au changement de cette roue, c'est l'un de nos meilleurs, l'un des plus rapides. On veut pas le mettre en cause, clairement, et on va regarder toutes les marges de progression qu'on a. Mais c'est clair qu'il faut tout revoir sur ces pit stops, parce que Red Bull est encore la référence. Ce week-end, ils ont fait un arrêt pour Verstappen en 2 secondes 2. C'était le plus rapide, en 2 secondes 02, pardon. Et quand même, Hamilton était le deuxième en 2 secondes 25. Donc ils ont performé, mais ils sont rarement quand même dans cette zone autour des 2 secondes. Ils sont plus à 2 secondes et demie. Alors une demi-seconde, ça vaut cher en Formule 1 quand même. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir, et ils n'étaient pas dans le match. Ils étaient un peu dans leur zone de confort. Mercedes, sur les pit-stops, il va falloir revoir tout de fond en comble pour être capable de matcher Red Bull dans ce registre-là.
Ouais, en tout cas, l'ami Toto Wolff a du pain sur la planche d'ici le prochain Grand Prix à Bakou. Techniquement, humainement, il va se passer beaucoup de choses, sans doute, au sein de cette équipe Mercedes. Il risque de se passer aussi pas mal de choses chez Ferrari, parce que alors là, ce week-end à Monaco, chez Ferrari, ça a quand même été les montagnes russes, les montagnes monégasques, hein, on se serait cru dans les cols au-dessus, au-dessus de la Turbie. C'était le rallye Monte Carlo pour l'équipe Ferrari, très rapide dès le jeudi, les deux Ferrari, confirmés donc par la pole position de Charles Leclerc. Et puis, quelques instants plus tard, le Monégasque qui commet l'erreur donc, et qui va encastrer sa voiture dans le rail. Voiture lourdement endommagée. Alors, ça cause un drapeau rouge. Finalement, tous ceux qui éventuellement auraient pu améliorer sont renvoyés au stand. Et ça laisse la pole position à Charles Leclerc. Ça nous fait, soit dit en passant statistiquement, c'est toi qui l'as relevé Stéphane, 4 poleman différents en 5 Grands Prix depuis le début de la saison. Et ça n'arrive pas si souvent que ça, hein, Stéphane.
La retourne, la dernière fois, c'était en 2012. Hamilton, Rosberg, Vettel et Maldonado avec 2 pôles d'Hamilton. Donc c'est vrai que ce n'est pas si souvent que ça. Donc on tournait autour de Mercedes et de Red Bull. Et puis là, il y a Ferrari qui s'est mis dans le match. C'est plutôt sympa. Malheureusement, je pense que c'était vraiment qu'une petite éclaircie. On verra à Singapour si Ferrari est capable de faire la même chose. Là, la parenthèse se referme. Mais on y a cru et c'est vraiment un grand gâchis que Charles Leclerc n'ait pas pu profiter de cette pole position. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le paddock, dans tous les esprits, hein, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Gilles, mais on n'a pas douté une seule seconde que c'était intentionnel.
C'était volontaire, clairement. Non.
Voilà.
Déjà parce que l'impact, il est quand même, c'est un gros impact. Hein. On va pas s'envoyer dans le mur comme ça. Ça aurait pu être potentiellement dangereux. Donc, et puis, connaissant un petit peu le garçon, on voit bien que c'est pas comme ça qu'il réagit. Non. Ça, cette hypothèse qu'il aurait fait exprès,
voilà.
C'est sûr que non.
Il a dit si vraiment j'avais voulu faire exprès, j'aurais tapé un petit peu moins fort. Ah, c'est vrai. Alors, c'était pas la caricature de Schumacher en 2006. Voilà, qui s'était garé, hein, tout simplement.
Oui, il a garé la voiture au milieu de la piste en disant « Bon, les gars, on arrête là, c'est bon.
» C'est ça. Ou le coup un petit peu plus sournois de Nico Rosberg en 2014 au freinage de Mirabeau. Toujours est-il que ça a créé un petit peu une confusion chez Ferrari. Chez Red Bull, Verstappen a dit, parce qu'il voulait pousser un peu, il a dit « Mais nous, chez Red Bull, on changerait tout de suite, on ne se poserait pas de questions. Mm-hmm. » Ferrari, on sent qu'ils ont essayé de préserver quand même cette pole position. Mais au bout d'un demi-tour quand même, c'est un arbre de transmission qui a cassé. Alors, on nous a expliqué qu'ils ont tout checké. Ouais. Et c'est l'arbre de transmission qui casse.
C'est étonnant. Bon. C'est étonnant. Alors, on explique, hein, pour ceux qui suivent ça peut-être d'un petit peu loin, que si on avait dû changer la boîte de vitesse ou si on avait dû changer cet arbre de transmission, il y aurait eu des pénalités. Et que donc, on aurait perdu l'avantage de cette pole position et que Ferrari, finalement, a pris le pari d'attendre le dimanche matin. Alors, ils avaient vérifié la boîte de vitesse. Il y avait un doute sur l'arbre de transmission. Et dès les premiers mètres, on s'est rendu compte chez Ferrari que cet arbre, il ne tenait déjà plus et que c'était l'abandon inéluctable pour Charles Leclerc. Et c'est là que tout a basculé finalement, parce que tout s'arrête à ce moment-là pour Charles Leclerc, qui encore une fois connaît un coup de malchance à Monaco. Il est monégasque, il est chez lui, mais il n'y a pas de prophète en son pays, et c'est valable aussi en Formule 1, Stéphane.
Oui, on l'avait dit la semaine dernière dans le précédent numéro des Fous du Volant. Charles Leclerc n'a toujours pas fini une course en monoplace en principauté. 2 abandons en Formule 2, 2 abandons en Formule 1 plus un retrait, c'est-à-dire c'est non-participation. Techniquement, ouais. Il n'est même pas sur la liste des engagés de la course. Il n'a pas franchi la ligne de départ. Bon. Et je trouve effectivement que ça lui arrive un petit peu trop souvent. Et là, maintenant, il va falloir qu'il se mette en mode un petit peu Verstappen. Verstappen qui avait eu des soucis avant de comprendre ce qu'est Monaco, finalement, le respect, l'humilité qu'impose ce circuit. Alors, je ne dis pas que Charles Leclerc est dans cet esprit-là, mais juste quand on pilote à 101%, ça le fait pas. Alors, Charles Leclerc, il a fait du 101% aussi en Q3 et ça lui a pas porté chance. Et maintenant, j'ai regardé une petite statistique. En fait, il faut quasiment avoir terminé un Grand Prix à Monaco pour pouvoir le gagner ensuite. J'ai regardé, c'est Juan Pablo Montoya, le dernier vainqueur en 2003 à Monaco, qui avait connu que des abandons avant, alors deux, on va dire, 2001 et 2002, ce qui est pas énorme, mais qui était arrivé sans l'expérience de toute une course à Monaco et qui l'avait quand même emporté. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Donc, il faudra que Charles Leclerc ne vise peut-être pas la victoire l'année prochaine pour apprendre à apprivoiser cette piste, tout simplement, qui ne pardonne rien.
Montoya qui a remporté finalement des succès sur les deux extrêmes, hein, le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis où la pole est à près de 400 km/h. Hein. Je crois que la pole là, qui a été réalisée le week-end dernier, c'est 373 km/h de moyenne. Hein. Assez incroyable comme chiffre. Mais n'empêche que, donc, on évacue la possibilité que Charles Leclerc ait fait exprès de se mettre dans le mur pour s'assurer de la pole position. Il faut quand même profiter de ce qui s'est passé là pour réfléchir un petit peu à la façon d'organiser la fin d'une qualification, et tout particulièrement sur un circuit comme Monaco, parce que ça paraît quand même curieux que celui qui a le meilleur temps, finalement, puisse, en tout cas, a la possibilité de mettre un terme à la séance de qualification. Il va falloir que la règle s'intéresse à ce cas de figure.
Oui, c'est un débat qui a démarré juste après la qualif. Toto Wolff a dit qu'il faudra peut-être faire comme en IndyCar, s'inspirer de l'IndyCar, un pilote qui provoque un drapeau rouge par un crash voit annuler ses deux meilleurs temps. Donc ça, c'est quand même pas rien, c'est une sacrée sanction, mais je dirais que ça ne rend pas justice aux autres pilotes qui ont un préjudice puisqu'ils ne peuvent pas tourner. Il y a un drapeau rouge, il faut évacuer une monoplace, on casse un petit peu cette dynamique de la course, et puis quand on est dans la dernière minute, bah, on déploie le drapeau à damier, c'est terminé, on ferme la piste et puis on fait les comptes. Et moi, je trouve
façon,
que ça, c'est...
De toute façon, on ne pourra pas indemniser ceux qui étaient éventuellement en train de battre voilà. le temps. Ça, de toute façon, c'est perdu d'avance. Mais peut-être qu'il faut réfléchir effectivement à un système où on annule éventuellement le chrono. Et on le dit, on le répète, ce n'est pas dirigé contre Charles Leclerc ou ce n'est pas dirigé contre la Scuderia Ferrari. C'est vraiment, voilà, à l'avenir, il faut peut-être réfléchir à une solution pour que personne ne soit tenté d'aller se mettre, là c'est le rail, donc c'est un peu extrême, mais d'aller se mettre dans le bac à gravier tranquillement en se disant, bah voilà, maintenant ça va faire drapeau jaune, on n'a pas le droit d'accélérer, et c'est terminé, il faut y réfléchir.
Il y a plusieurs notions dans tout ça. Si Charles Leclerc sort au casino comme l'a fait Mick Schumacher, les pilotes qui sont devant lui peuvent terminer leur tour, ça pose aucun problème, ils peuvent faire la pole position, sauf que lui il le fait tout à la fin. Donc c'est ça qui est un petit peu problématique, c'est un coup de pas de chance. Mais je dirais qu'effectivement, là, il y a eu des victimes dans cette histoire. Moi, j'en vois deux, c'est Verstappen et Bottas. Sainz s'est plaint. Il a même été assez sévère. Hein. Oui. Il est assez remonté contre Charles Leclerc, qui a eu un beau geste à la fin du Grand Prix à l'arrivée, qui était félicité pour cette deuxième place. Mais
la première action était un petit peu véhémente.
Sainz était compétitif en essai libre, il ne l'était plus en Q1 ni en Q2 et même en Q3 sur son premier run. Il était assez loin, il a prétendu qu'il pouvait viser la pole position, ce qui était faux. Mais revenons à l'essentiel, effectivement, il ne faut plus que ça arrive. Alors Gilles, j'ai déjà parlé de choses comme ça, de créer une Q4, c'est-à-dire une super pole, où pour éviter ce genre de problème, on ferait tourner les 4 ou 5 meilleurs de la Q3 tout sur un tour, les uns après les autres. Et là, on aurait le crash ou la pole, mais on n'aurait pas les deux qu'on a eu en Q3, donc samedi. Et ça résoudrait quand même tous les problèmes. Peut-être même sur ce circuit spécifiquement de Monaco, il faudrait le faire. On est en train de faire des courses. Alors, je ne sais plus comment elles s'appellent, des courses sprint de qualification. On va en tester 3 ou 4 cette année. Ouais. On va faire des one-shots comme ça. Voilà. Alors, Monaco est particulier. On ne fait pas la distance réglementaire des 320 km requis pour un Grand Prix. On en fait beaucoup moins. Bon, ben, on peut aussi faire une exception aux essais pour que ce soit propre, parce que ça fait quand même 3 fois que ça arrive en 15 ans, qu'on nous confisque finalement le dénouement. Verstappen était en tête, était devant aux intermédiaires après le premier secteur. Il devait faire la pole position. Il l'a récupéré physiquement sur la piste. Mais il y a un souci par rapport à ça. Et je ne vois pas la solution de l'IndyCar vraiment réparer, je dirais, les préjudices, ce que propose Toto Wolff.
Non, c'est clair que la Super Pole, ça paraît quand même être un bon moyen. Il faut aller s'inspirer de ce que fait la Formule AE. Oh, on a parlé de Formule AE sur une émission de Formule 1. Oh là là, pas bien.
Alors, Gilles, on l'a déjà expérimenté au début des années 2000. Les pilotes passaient 1-1-1 dans le sens inverse, puis dans le sens normal du classement du championnat du monde. Bon, mais on voyait 20 pilotes, ça n'avait pas d'intérêt, mais 4 ou 5 simplement, ça serait intéressant. Et puis, tu peux quand même prendre un risque, parce que si tu te loupes, tu es assuré d'un top 4 ou d'un top 5. Oui. Donc, ça va quand même.
On va quand même terminer cette partie consacrée à Ferrari en parlant de Carlos Sainz, qui a donc hérité de la deuxième place à l'arrivée. Alors, sans faire de dépassement, hein, il était quatrième sur la grille. Charles Leclerc.
Bah Gilles,
ne prend
tu
pas
sais combien
départ.
Il y a eu de dépassements pendant cette course?
Oui, je crois. Je crois que c'est un truc genre comme ça. Zéro.
Merci, Mick. Mick, au premier tour, à l'épingle du Grand Hôtel, il a débordé. En fait,
il a piégé. Il y a eu un dépassement.
Mazépine. Et c'était le seul déplacement, vrai dépassement, de toute la course.
Ah, mais un dépassement pour Mazépine, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un vrai dépassement? Tiens, on va ouvrir le débat.
Ouais.
Bon, on revient sérieusement.
Mais en tous les cas, pour Sainz, beau résultat, deuxième place.
Deuxième
tu
place,
l'as dit.
Solide.
Oui, alors, il a été taquin parce qu'il a dit. Alors, il nous a dit qu'il aurait peut-être dû gagner encore. Donc, ça, c'est un peu exaspérant. C'est un peu le Sainz, la com de Sainz des années Toro Rosso, franchement. Il redevient un petit peu pénible de ce point de vue-là parce qu'il est pendu aussi, parce que Leclerc fait mieux que lui en qualif et en course et qu'il cherche un petit peu des compensations comme ça. Ça, ce sont simplement des mots. La deuxième place, c'est déjà bien pour lui. Et quand je te dis qu'il a été taquin, c'est que tout de suite, il est arrivé, il a dit « J'ai changé d'écurie, ça fait que 5 courses que je fais avec Ferrari, c'est un bon résultat. » Et tous les pilotes qui changent d'écurie n'en sont pas là. Hein. N'ont pas autant de réussite. Alors, suivez mon regard.
Hein, Daniel
Ricciardo, qui était à la cave pendant 78 tours, qui s'est fait prendre un tour par Lando Norris en course. Enfin, l'humiliation totale, quoi. C'est vraiment. Donc, il est bien, il est pas mal. Il a validé, finalement, son transfert chez Ferrari par ce résultat. Tout est bien qui finit bien. C'est vrai qu'on lui avait promis le pire. Bon, bah, c'est pas le pire quand même.
Voilà. Et puis, c'est une bonne opération pour Ferrari aussi. Alors, bonne opération relative, hein, parce qu'évidemment, en ayant perdu la voiture qui partait de la pole, ça restera malgré tout un déficit. Mais Ferrari qui se replace au classement des constructeurs, qui revient vraiment sur les talons de McLaren. On va jouer le podium au classement des constructeurs pour Ferrari, ce qui est déjà quand même un très très gros progrès par rapport à ce qu'on a connu, l'abysse de 2020.
C'est ce qui obsède Mattia Binotto, le directeur de l'équipe. À propos du changement de boîte de vitesse de Leclerc, il avait dit on ne prendra pas de risque. Si vraiment on a un petit doute, on la changera parce que le plus important, c'est de préserver une bonne place de grille pour marquer des points au championnat constructeur. On vise la troisième place et on veut être dans cette optique et on ne veut pas parier, je dirais, bêtement là-dessus. Alors, ces points-là, c'est quand même des gros points. Leclerc out, avec sa seule voiture, il marque 18 points. C'est vrai que c'est précieux dans la lutte avec McLaren pour la troisième place. C'est très précieux. On est heureux de revoir quand même Ferrari à ce niveau-là et lutter aussi contre McLaren. Ça nous renvoie quelques belles années aussi et quelques belles heures de la Formule 1.
Ouais, c'est ça. Bon, que les plus jeunes ont peut-être pas connu, mais voilà. Puis c'est toujours bien d'avoir une firme historique comme ça qui revient dans le jeu. Faut espérer maintenant que ça soit pas un épiphénomène, parce qu'on sait que Monaco c'est vraiment très 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 particulier et que ça se poursuive à Bakou et ensuite au Grand Prix de France notamment. Parce que le prochain Grand Prix, donc on l'a évoqué à plusieurs reprises, ça sera donc en Azerbaïdjan, à Bakou, dans les rues encore, mais là ça sera pas du tout la même typologie de circuit, et ça sera le 6 juin, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition des fous du volant d'ici là, et on pourra se mettre tranquillement dans l'ambiance azéri. D'ici là, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. T'as vu, je commence à connaître la ritournelle presque par cœur. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, et puis surtout à vous abonner aussi, comme ça, ben, la semaine prochaine, quand on fera notre nouvelle édition des Fous du Volant, ben, ça arrivera directement dans votre smartphone, et puis en sortant du bureau, hop, vous mettez le podcast et vous entendez Stéphane et moi revenir sur l'actualité, rire, se moquer un peu, parfois, jamais méchamment, de ce qui se passe en Formule 1. On se retrouve la semaine prochaine, Stéphane.
Avec plaisir, Gilles.
Et d'ici là, on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.